le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue au magazine des Nations Unies. Le M23 s'est retiré de Goma à 6 km au lieu de 20, comme cela avait été recommandé par les chefs d'État de la CIRGL. Cette situation inquiète la population de cette ville. Comment la rassurer, lui redonner espoir? Réponse dans l'actualité de la semaine de cette édition. Il y a 64 ans que les Nations Unies ont publié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet anniversaire a été célébré dans le monde et en RDC. Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, nous en parle. Il sera l'invité de Jean-Pierre Elali Coco dans un instant. Enfin, visage, action et changement, c'est le thème central d'une exposition photo organisée à Kinshasa par le programme des Nations Unies pour le développement. Une occasion pour le PNUD de montrer au public ses réalisations en RDC en images. Merci et encore une fois, bienvenue.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La question sécuritaire dans la ville de Goma est revenue à la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Les rebelles du M23 ne se sont retirés que de 6 km de Goma jusque-là, d'où l'inquiétude de la population de cette ville du Nord Kivu et des environs. Jean-Pierre Elali Coco pour les détails.
Les rebelles du M23 ne se sont retirés qu'à 6 km sûrement de la ville de Goma, au lieu de 20 km, comme cela avait été recommandé par le sommet des chefs d'État de la CIRGL à Kampala. Ces positionnements inquiètent et font redouter un possible retour des rebelles à Goma en cas d'échec des négociations dans la capitale ougandaise. Comment rassurer la population de Goma? Écoutez la réponse du colonel Félix Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Je voudrais d'abord souligner le fait que au-delà de l'option militaire dont vous semblez faire allusion, d'autres dynamiques sont initiées depuis peu de temps, notamment les pourparlers qui se passent à Kampala pour essayer d'apporter une solution politique au problème que nous connaissons depuis quelques mois. Maintenant, comment rassurer la population? Eh bien, nos populations, nous les rassurons tous les jours parce que n'oubliez pas que nous vivons avec ces populations dans la ville de Goma, aux alentours de la ville de Goma, et que la meilleure assurance que nous puissions leur apporter, ce sont les activités quotidiennes que nous menons et qui concourent toutes à apporter le maximum de sécurité à ces populations qui sont aussi bien à Goma qu'aux environs de Goma. Mais seulement, il ne faudra pas tout simplement se focaliser non plus sur la seule situation de Goma, parce que je pense que la crise, elle est au-delà de Goma, elle est dans le Rutshuru, elle est dans le Masisi, et que dans tous ces coins que je viens de citer, la force de la MONUSCO est présente, elle est présente à côté des populations civiles, elle mène des activités permanentes, que ce soit des patrouilles aériennes, que ce soit des patrouilles à pied, que ce soit des patrouilles de jour, que nous menons tous les jours pour essayer d'apporter un maximum d'assurance, un maximum de réconfort aux populations de ces provinces qui en ont largement besoin.
Toujours en ce qui concerne la crise dans l'Est et les pourparlers engagés à Kampala entre le gouvernement et le M23, le porte-parole de la MONUSCO a déclaré que l'attitude des parties en négociation sera déterminante pour la suite des événements. Manoj Mounoubaï.
Encore une fois, il faut poser la question aux parties qui sont en négociation. Parce que c'est leur attitude qui déterminera la suite des événements. C'est pas à la MONUSCO.
Il faut préciser que d'autres questions ont été également abordées lors de cette conférence de presse, comme la scolarité des enfants des déplacés au Nord Kivu, la participation de la RDC à la conférence de Doha sur l'environnement ou encore la sécurité dans les camps des déplacés de Mugunga.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD expose depuis le 29 novembre dernier à l'Institut français à Kinshasa 60 photographies prises entre août et septembre 2012 qui témoignent des projets du PNUD en République démocratique du Congo dans son programme 2008-2012. Ces photos ont été prises à Kinshasa, au Bandundu, au Kasaï oriental, au nord et au sud Kivu et en Ituri dans la province orientale. Cette exposition ira jusqu'au 29 décembre prochain et s'intitule « Visage, action et changement ». Florence Marchal, responsable de la communication au sein de cette agence onusienne, décrypte pour vous les concepts contenus dans ce thème. Elle répond ici aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
L'exposition s'appelle « Visage congolais, action et changement ». Visage, c'était pour montrer la diversité des photographies, qui ne sont pas toutes des portraits, qui sont en majorité des portraits, mais qui nous montrent ce qu'est la RDC, vue à travers le PNUD et vue à travers le regard de trois photographes congolais entre juillet et septembre de cette année. Action, ce sont les actions qui sont menées par le PNUD en RDC depuis 1976 pour accompagner le peuple et la nation congolaise dans leur développement. Et changement, ce sont les changements que les personnes qui ont bénéficié des projets du PNUD ont pu ressentir au niveau de leur vie, parce que grâce, elles ont suivi des formations et elles ont un métier et maintenant elles peuvent subvenir à leurs besoins, envoyer les enfants à l'école. Ce sont les policiers qui ont été formés et qui peuvent exercer leur métier en respectant les règles de protection des droits de l'homme, etc. Ce sont toutes les actions qui sont faites, les changements visant à valoriser la forêt congolaise dans le processus des négociations sur le changement climatique. Voilà donc l'explication, l'interdépendance entre les visages, les actions et les changements.
Alors, Florence Marchal, ces photos ont été prises à Kinshasa, dans le Bandundu, dans le Kassai oriental, les deux Kivu et en Ituri. Pourquoi ce choix?
Alors, le PNUD n'intervient pas sur l'ensemble du territoire congolais. Vous le savez, nos projets sont menés grâce au financement de bailleurs et le choix de l'intervention et les zones d'intervention se fait en accord avec nos partenaires. Le pays est immense, on ne peut pas être partout. Ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Concernant les photos elles-mêmes, on a choisi 10 thèmes. On aurait pu en avoir d'autres. On aurait pu sans doute aller dans d'autres provinces. Mais après, pour des raisons strictement logistiques, on s'en est tenu à ce choix.
Quel est l'objectif de cette exposition, en fait?
Alors, l'objectif de cette exposition, c'est de pouvoir rendre plus accessible et de rendre plus parlant les interventions du PNUD en RDC. On parle souvent de concepts de développement. Le PNUD fait des renforcements des capacités, fait de l'appui conseil, toutes des choses qui finalement ne sont pas associées à des images et qui viendraient spontanément à l'esprit quand on les évoque. Et donc le pari était de montrer le bout de la chaîne, les personnes qui sont bénéficiaires, et pour montrer vraiment des visages sur nos résultats et en conséquence de faire en telle sorte que tous nos partenaires, que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit nos partenaires de mise en œuvre, que ce soit les bailleurs et aussi la population congolaise, que tout le monde s'approprie le travail du PNUD en République démocratique du Congo.
Alors, mais vous exposez pour qui? Tous ces partenaires sont passés par ici?
Tout à fait. Alors, l'exposition est installée depuis le 29 novembre à l'Institut français de la Halle de la Gombe à Kinshasa. Elle est visible jusqu'à la fin décembre, jusqu'au 29 décembre. Donc, il y a encore deux grandes semaines, même plus, pour venir visiter l'exposition. Et ensuite, il est prévu que l'exposition voyage dans le pays pour aller à la rencontre d'autres partenaires.
Vous avez un dernier mot par rapport à ça?
Je crois que le dénominateur commun de la plupart de ces photographies, même si l'exposition a été organisée et présentée à un moment difficile pour ce pays, ce sont les sourires et c'est l'espoir qui est généré par cette exposition. Se dire, et cette formidable capacité de résilience de la population congolaise, elle s'exprime vraiment à travers ces photographies.
Florence Marchal, merci.
Merci.
direction Mangina, Beni, dans la province du Nord Kivu. Plus de 200 femmes victimes de violences sexuelles, des orphelins et d'autres enfants vulnérables, bénéficiaires des écoles pratiques d'agriculture et de vie, ont participé la semaine dernière à une journée porte ouverte organisée par la FAO. L'objectif de cette journée était de permettre à ces personnes de se mobiliser pour résoudre les problèmes liés au VIH-SIDA et aux inégalités de genre dans leur communauté rurale. Une seconde journée porte ouverte est prévue le 20 décembre prochain à Bukavu, dans le sud Kivu. Le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC, Moustapha Soumaré, a conduit le 8 décembre une délégation d'humanitaire au camp Mugunga 3 dans le Nord Kivu. C'était la première visite du genre de haut niveau après la réouverture de l'aéroport de Goma. Moustapha Soumaré a profité de cette mission pour échanger avec les déplacés et les organisations humanitaires sur l'aide en cours et les défis persistants, notamment en termes de protection de civils. Le programme alimentaire mondial PAM a terminé la deuxième phase de distribution des vivres, ciblant 160 000 personnes déplacées internes à la suite de la crise du Nord Kivu. Entre-temps, 92 tonnes de biscuits énergétiques sont en cours d'acheminement vers l'est de la RDC en provenance de Dubaï via Entebbe.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La communauté internationale a célébré lundi dernier le 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, est notre invité. Il nous donne le sens du thème retenu cette année, à savoir inclusion et droit de participer à la vie publique. Il fait également le point sur l'état des droits en RDC et surtout au Nord Kivu, province marquée par la guerre. Scott Campbell s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Scott Campbell, bonjour.
Bonjour.
Vous rentrez d'une mission à Goma. Des allégations sur des graves violations des droits de l'homme sont avancées lors de l'occupation de la ville par les M23 et même lors du retrait des FARDC vers Minova. Confirmez-vous ces allégations?
Oui, bon, on peut confirmer qu'il y a eu des violations de droits internationaux humanitaires et de droits de l'homme pendant l'occupation de la ville par les M23 et lors du retrait des FARDC vers Minova. Nous avons des enquêteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire avec précision combien de cas de viol ou combien de cas...
Mais vous avez quand même une idée sur la nature de ces violations.
Nous avons une idée sur la nature et je peux vous confirmer qu'il y a eu des cas, des exécutions arbitraires par les M23 à Goma.
Et un peu partout à Sake.
À Sake, par les M23, nous n'avons pas des allégations confirmées juste à ce moment. Mais à Goma, il y a eu des exécutions arbitraires par les M23, les cas de pillage et des cas de violence sexuelle ou viol. Ça c'est certain, sans entrer en détail sur les chiffres. Aussi, nous avons eu des allégations sur les cas de pillage par la FARDC.
C'est où? À Minova, précisément?
Lors leur retraite de Goma. Donc,
le long du parcours.
Dans certains dans certains quartiers de la ville de Goma, lors du parcours, et surtout à Minova et aux alentours, quelques petits villages à Minova. Il y a aussi, très important à noter, le cas de viol, les allégations de viol par les membres de la FARDC au niveau de Minova. Nous avons une équipe qui est sur le terrain en train d'enquêter et la justice militaire congolaise est aussi en train d'enquêter sur ces graves allégations.
Vraiment assez grave, comme vous l'avez dit. Quelles sont les actions que le bureau conjoint envisage pour que les auteurs de tels actes ne demeurent pas impunis?
Bon, il y a deux choses fondamentales auxquelles je viens de faire allusion. La première chose, à notre avis, lorsqu'il s'agit des violations des droits de l'homme, c'est d'attirer l'attention des autorités sur ces cas. Et donc, raison pour laquelle nous avons un mandat... Les autorités congolaises, surtout. Nous estimons que, compte tenu de notre mandat, le mandat de la MONUSCO, qui vient du Conseil de sécurité, et de l'Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève, nous avons aussi une responsabilité, une obligation d'attirer l'attention de la communauté internationale. Donc la première chose quant à nous, c'est d'enquêter d'une manière systématique et faire des rapports, attirer l'attention de ces différentes autorités. La deuxième chose qui est également importante, c'est d'appuyer la justice, l'appareil judiciaire, la justice congolaise à faire son travail.
Nous allons y arriver. Bon, alors maintenant, vous avez visité aussi la prison centrale de Goma.
Tout à fait.
Où, il semble-t-il, il y a eu beaucoup de cas d'évasion. Et quel est l'état actuel de cette prison?
Bon, l'état...
C'est ça aussi les droits de l'homme.
Tout à fait. Il y a beaucoup de questions de droits de l'homme liées avec la détention et les lieux de détention, certainement. Il faut juste faire la part des choses. L'ancienne partie de la prison de Goma, la prison de Muzenze, est vidée de ses occupants, au-delà de 1200 personnes, pillée et est dans un état qui est, je dirais, un état final. Donc c'est un bâtiment qui a... À notre avis, à mon avis, à raser.
À quoi sont dues ces évasions, selon vous?
Il y a des différentes théories, mais on n'est pas sûr d'exactement qu'est-ce qui a facilité l'évasion. Nous avons vu un grand trou dans un mur derrière la prison qui a facilité l'évasion, mais qui exactement a facilité, c'est pas clair. Mais il faut noter qu'il y a d'autres parties, une aile de la prison qui était construite plus récemment pour héberger et des femmes et des mineurs.
Et je vous apprends qu'aujourd'hui, on a annoncé que les activités à la prison des Muzenze ont repris.
Et c'est exactement dans cette aile dont je parle, donc l'aile qui était construite plus récemment, qui était pillée et un peu endommagée, mais avec l'appui des acteurs des Nations Unies, il y a eu une assistance urgente pour réhabiliter cette. Et il y aura un autre nouveau bâtiment qui est juste à côté, qui est presque terminé. C'est l'UNOPS qui est en train de construire ce bâtiment, qui va aussi héberger d'ici le mois de janvier encore des prisonniers.
Monsieur Campbell, restons toujours dans le domaine de la justice. Il y a des magistrats qui ont fui Goma lors des événements du 20 novembre que vous connaissez. Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions pour les faire retourner et surtout pour leur sécurité?
Bon, pour les faire retourner, il n'y a aucun souci de la part des Nations Unies. Nous avons demandé juste qu'il y ait une requête spécifique qui vient du système de la justice pour faciliter le retour à Goma, et nous sommes tout à fait ouverts.
Donc, ils ne sont pas encore entrés. Ils sont encore ici à Kinshasa pour certains?
Je pense pour certains, ils sont toujours ici, mais nous sommes à la disposition du gouvernement de faciliter leur retour compte tenu de nos moyens, notre capacité.
Ok, c'est bien. Et la communauté internationale a commémoré lundi dernier le 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelle signification donnez-vous au thème « Ma voix compte » dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo?
Bon,
c'est un thème qui a été arrêté cette année.
Non, c'est un thème, je pense, très approprié compte tenu de contexte ici en RDC, où à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de personnes, et surtout peut-être les personnes un peu âgées ou des jeunes gens ou des femmes, ou des personnes qui vivent avec handicap, avec PIDH ou homosexuels. Il y a beaucoup de monde, à mon avis, dans ce pays qui se sent exclu, marginalisé des décisions, de la gestion du pays, gouvernance, la prise de décision. Et donc, ma voix compte, c'est-à-dire que moi aussi j'ai mes droits, moi aussi je pourrais participer d'une manière ou d'une autre dans la gestion de la chose publique.
Ah ouais, mais ici chez nous, lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique, on voit les gouvernants et comment quelqu'un qui est marginalisé, par exemple une personne vivant avec un handicap, peut y participer. Comment concrètement?
Bon, il y a de bons exemples. La semaine passée, j'étais avec Maître Esambo, qui est un grand leader de la société civile, qui est une personne qui a vécu, je pense, toute sa vie avec handicap. Mais pour moi, c'est un exemple classique de quelqu'un qui participe dans la vie, était candidate aux élections, je pense, il y a 6 ans. Elle mène des activités au sein de la société civile qui, pour moi, sont capitales dans la gestion publique. La société civile a ce rôle à jouer qui est capital, d'être le contrepoids de ceux qui gèrent formellement, officiellement, au sein du Parlement, au sein du gouvernement, des institutions du gouvernement. Mais c'est la société civile qui, quelque part, qui doit contrôler. Et donc, nous tous, nous avons une voix qui compte.
Oui, c'est un bon exemple. Et la justice congolaise a beaucoup de pesanteurs, Monsieur Scott, vous le savez. Il y a le manque d'infrastructures, on vient d'en parler pour le cas de la prison de Goma. Il y a la corruption, c'est-à-dire le jugement à la tête du client, etc. Et quelle évaluation faites-vous de l'appui du bureau conjoint aux instances judiciaires au cours des 2 dernières années?
Bon, il y a énormément de défis, comme vous venez de l'évoquer. La petite pierre que nous portons à l'appareil judiciaire, c'est principalement un renforcement des actions qui visent le combat contre l'impunité. Les deux dernières années, nous avons vu une augmentation dans le nombre de poursuites judiciaires et des condamnations contre les personnes qui ont commis les crimes graves, les crimes internationaux, donc disons les crimes contre l'humanité.
Surtout les militaires, donc les gens qui font partie des groupes armés aussi.
Malheureusement, il y a très peu de personnes des groupes armés. Que ce qui nous encourage, c'est la tendance que petit à petit, il y a de plus en plus les auteurs des violations de droits de l'homme et les auteurs des graves violations de droits de l'homme qui sont poursuivis, traduits en justice et condamnés.
Et dans les domaines de la corruption, par exemple, vous n'avez pas d'action précise?
Si. Principalement, notre collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits Humains, je pense, en fait, un modeste appui de notre part a facilité des actions très, très importantes. Comme vous le savez peut-être, il y a 4 directeurs des prisons qui, aujourd'hui, sont détenus.
Ils sont interpellés.
Et il y a des enquêtes pour, effectivement, combattre la corruption.
Mais on ne peut pas terminer cet entretien sans évoquer un cas de violation des droits de l'homme en RDC, c'est le procès Tchebeya. Vous savez que la haute cour militaire a rejeté le 23 octobre dernier la demande de comparution du général John Numbi. Quelle serait alors, selon vous, la suite de ces procès? Est-ce qu'il y a encore un peu de lueur d'espoir pour les familles des victimes?
Bon, c'est un procès qui est toujours en cours. Il faut attendre et voir se connaître la suite. Certainement, il faut que la justice se prononce. Il y a des possibilités qu'on approfondisse la recherche des enquêtes sur ce cas. Pour nous, c'est important. Je pense que le commissaire aux droits de l'homme l'a très bien dit, que c'est un cas qui est emblématique, qui va donner vraiment un signal très fort à la communauté internationale ainsi que la population de la RDC. Et si la justice n'est pas faite sur le plan national, je suis convaincu qu'il y aura une continuation de la recherche pour la justice sur le plan international. Et ceci peut-être pendant des années à venir.
Scott Campbell, je vous remercie.
Merci à vous.
Mandat de la MONUSCO accorde Kampala, résolution du Conseil de sécurité afférente à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et stratégie d'accompagnement des initiatives féminines dans le rétablissement de la paix et de la réconciliation communautaire. Tous ces sujets abordés lors d'une réunion d'information organisée mardi par la section gender de la MONUSCO a permis aux participantes, les femmes de la société civile de Kinshasa, de recueillir les bonnes informations afin d'être en mesure de se faire une appréciation juste des choses. Honoré Missenga Kalala nous en parle.
Agathe Moudimbié, Marie Tumbanzeza, Dr Balanda et bien d'autres, l'échantillon était qualitativement représentatif pour un débat qui a duré près de 4 heures, un débat à l'issue duquel bien d'équivoques ont été levés, comme le disent cette participante.
Je viens de participer à une réunion qui aurait dû avoir lieu bien avant la guerre, parce que peu de Congolais savaient que nous n'étions plus sous embargo, que la MONUSCO était sous le chapitre 7. C'est une désinformation nationale. Même les hommes et femmes des médias ne nous informaient pas et nous disaient le contraire. Donc on a levé des équivoques et c'est des équivoques qui ont la taille d'éléphant. C'est vraiment une chose importante et il est nécessaire pour nous qui avons participé à ceci de répercuter cela à la base.
Et par rapport au mandat de la MONUSCO et à son rôle aux côtés des FRDC, les participantes sont sorties de cette réunion avec une autre image de la mission onusienne.
J'ai participé à cette réunion d'échange d'informations. Ça m'a donné des détails sur les informations que j'avais déjà sur la situation à l'est du pays. Et ce qui est intéressant est que nous avons eu vraiment à échanger avec les responsables, surtout militaires et politiques de la MONUSCO, qui nous ont donné l'information sur le mandat de la MONUSCO et sur le travail que la MONUSCO est en train de faire sur le terrain et comment la MONUSCO soutenait notre armée régulière pour empêcher que Goma ne puisse tomber. Mais malheureusement, le M23 était super équipé et avait de l'armement que notre armée n'avait pas. Ce que nous retenons et que c'est le message que nous envoyons à l'endroit de nos autorités, c'est qu'il faut qu'on arrive à organiser notre armée, à professionnaliser cette armée afin que ça devienne efficace, l'équiper afin que ça puisse faire face au M23. L'image que je fais de la MONUSCO, c'est que la MONUSCO fait son travail. Il ne fait que exécuter le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, elle ne peut pas faire ce qui ne rentre pas dans son mandat.
Et sur base des informations reçues, une autre participante a estimé que les organisations féminines de la société civile congolaise devraient interpeller les institutions publiques, particulièrement les femmes du gouvernement, pour une implication effective de la femme dans le processus du rétablissement de la paix et la résolution de la crise dans l'est de la RDC.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle José Fabrice Mugalu Kirangabo. Je suis marié et père de 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Comme formation, après l'école primaire, j'ai suivi les humanités littéraires, option latin philosophie, au collège Saint-Paul à Bukavu. Et après, j'ai embrassé la faculté de droit à l'université libre des pays des Grands Lacs à Goma. Comme fonction, aujourd'hui, je suis assistant à la section des affaires politiques à la MONUSCO à Bukavu. Et cela depuis le 5 novembre 2003. Quotidiennement, quand j'arrive au bureau, je commence bien sûr par ouvrir mon ordinateur et voir le programme de la journée par rapport aux activités prévues, les réunions auxquelles la section doit participer, les différentes autres activités comme les rapports qu'il faut produire, les drafts qu'il faut préparer et toute autre tâche comme prévu au programme par le chef de la section. De manière tout à fait simplifiée, le travail se focalise très souvent sur le drafting des rapports, sur la recherche des informations, des données liées à la situation politique, sécuritaire et sociale, mais aussi économique de la province, et entrer en contact avec les partenaires traditionnels, entre autres les partis politiques, un peu la société civile et d'autres acteurs impliqués dans la dynamique, et relever les faits saillants sur le plan de la dynamique politique et reporter tout autre fait en rapport avec le mandat et la mission de la MONUSCO est principalement attachée aux tâches dévolues à la section des affaires politiques. Mon parcours avant d'arriver à la MONUSCO, quand j'ai terminé mes études de droit, j'ai été engagé comme assistant à l'université Libre des Pays des Grands Lacs, où j'ai travaillé de novembre 2000 à novembre 2003. Mon temps libre, je le gère autant que faire se peut par rapport au programme que j'établis moi-même, mais il est très souvent affecté à la famille, de visite en famille, mais aussi à s'occuper de ma propre famille chez moi. Des fois, rendre visite aux amis. Quand je ne vais pas trop sortir, je m'en donne à la lecture parce que j'aime bien lire. Se retrouver de temps en temps entre amis, discuter. Et après ça, bien sûr, le corps a besoin de repos autant que possible. Je me repose quand j'en ai l'opportunité. Mes préférences en matière de musique, par exemple, j'aime bien la musique congolaise. J'écoute volontiers du Papa Wemba, du Zibem Piana, du Fally Ipupa, mais aussi quelqu'un comme Jean Goubal, dont j'apprécie les sonorités. Lou Kwakaza, bien sûr. Sport, j'aime bien regarder le match de football, de basketball, et ça me permet aussi de me divertir de temps en temps. Projet d'avenir, c'est encore pas très très bien planifié, mais j'aimerais autant que possible parfaire mes études en droit. Ça veut dire avoir un diplôme de doctorat et continuer l'enseignement, si possible après la MONUSCO, et pourquoi pas travailler à mon compte personnel. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Landou Norbert. Je suis boulanger à Kinshasa. Ma question, je la pose à l'UNICEF. La guerre entraîne de flux de déplacés dans le Nord Kivu. Beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école. Les écoles sont soit pillées, soit servent d'abri aux déplacés. Comment l'UNICEF compte-t-elle aider les milliers d'enfants à retourner à l'école dans cette province?
Merci Norbert. Nous avons joint au téléphone Adrien Moujarel, officier de communication humanitaire à l'UNICEF, et voici sa réponse.
Effectivement, Norbert, comme vous le soulignez, on estime que depuis septembre, des familles et les différentes parties impliquées dans le conflit ont occupé ou pillé près de 250 écoles supplémentaires dans le nord et le sud Kivu. Cette année, au total, ce sont plus de 600 écoles qui ont été ainsi utilisées comme cuisine, cantine, dortoir, caserne ou entrepôt de munitions. Dans presque toutes les classes touchées par le conflit, le mobilier scolaire a été partiellement endommagé ou même totalement détruit. Les manuels scolaires et les bancs d'école ont même été utilisés comme bois de chauffe. Aujourd'hui, il est crucial que les élèves et les enseignants reprennent le chemin de l'école pour de nombreuses raisons. L'éducation est bien sûr un outil pour apprendre et préparer le futur, mais c'est également un outil de protection, extrêmement important dans une situation d'urgence comme celle que connaissent actuellement le Nord et le Sud Kivu. Lorsqu'ils ne sont pas à l'école, les enfants ont plus de risques d'être exploités, abusés et même recrutés. Ensemble, avec nos partenaires d'ONG International et le ministère de l'Éducation, nous mettons tous les moyens en œuvre pour que les écoles puissent rouvrir. Nous reconstruisons des bancs, réhabilitons les écoles endommagées et nous distribuerons d'ici la fin de cette année plus de 80 000 kits scolaires. Nous estimons qu'au moins 240 000 élèves ont manqué de semaines de scolarité à la suite du conflit depuis avril. Dans le cadre de ces interventions d'urgence à l'est de la RDC, l'UNICEF et nos partenaires prévoient de couvrir les besoins éducatifs de l'ensemble de ces enfants.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Des rendez-vous à retenir pour la semaine qui commence. À la MONUSCO, l'unité Outreach se lance à Kinshasa dans une campagne de sensibilisation au rôle de la mission onusienne dans la crise de Goma. Les sensibilisateurs iront notamment dans les communes de Kintambo et Bandalungwa ce lundi 17 décembre, Limete et Kasavubu le mardi 18 décembre et Abibwa dans la commune urbano-rurale de Lancele le mercredi 19 décembre. Retenez également deux rendez-vous internationaux. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants et le 19 décembre, la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Fin de cette édition du magazine des Nations Unies. Mila Kimwini vous l'a présenté avec la collaboration du côté de la technique de Dieudonné Nyangasa, Jean-Pierre Elali Coco l'a coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka et Honoré Nisenga était au reportage. Si vous avez aimé cette édition, ne ratez pas sa rediffusion à 19h03, heure de Kinshasa. Vous pouvez également l'écouter sur notre site www.radiokapi.net. Pour vos remarques, vos suggestions et vos questions, contactez-nous 082 30 76 630. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale à tous.